بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi, le 15 du mois Dhul Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 2 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude des fondements de la sunna de l'imam Ahmad avec le commentaire de l'éminent savant de notre époque, Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la sunna. On s'est rendu au chapitre dans lequel il a dit « Wal imanu qawlun wa amalun yazid wa yanqusu » كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Donc, il dit que la foi, c'est des paroles et des actes qui augmentent et qui diminuent, comme ceci a été rapporté dans les récits. Les croyants qui ont la foi la plus complète, c'est ceux qui jouissent du meilleur comportement. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Ça, c'est la parole de l'imam Ahmad qu'il a mentionné. Cheikh Rabi Hafidhahullah, dans son explication, il a dit que la foi, c'est des paroles et des actes. Effectivement, comme a dit l'imam Ahmad. Vous savez que salaf, ils définissent la foi de plusieurs manières, lakin toutes reviennent à la même chose. C'est des expressions différentes pour indiquer le même fond, pour indiquer la même réalité. Donc ici, par exemple, parmi les expressions qui ont été utilisées par les salafs les plus brèves et les plus succinctes, ils disent la foi, c'est des paroles et des actes. Tayyib. La foi, c'est des paroles du cœur, tout d'abord. Et ensuite, c'est les paroles avec la langue. On prononce. Et c'est des actes d'abord du cœur et ensuite des actes des membres. Donc ça englobe quatre points. Tu peux dire également, la foi, c'est des paroles et des actes et des croyances. Tu rajoutes la croyance. Et la croyance, dans la première expression, quand on a dit c'est des paroles et des actes seulement. La croyance, c'est les paroles du cœur. Les paroles du cœur, ce sont les croyances et la connaissance de la vérité. Comme, c'est la connaissance de la vérité et ses paroles. Et je vais vous lire un passage de Cheikh l'Islam Taymiyyah qui rend cette définition extrêmement claire et facile à comprendre. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, on peut dire également, la foi, c'est des paroles et des croyances et des actes. Les paroles, c'est les paroles de la langue. Les croyances, ce sont les paroles du cœur. Et les actes, ça englobe les deux. Les actes du cœur, comme l'amour d'Allah et de son messager, comme la crainte d'Allah, comme l'espoir de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite parmi toutes les adorations du cœur, qui sont ses actes. Yani, c'est pour ça qu'on les appelle « amalul quloub », car le cœur, il agit, il fait un mouvement, c'est une action du cœur, qui est bien évidemment basé sur sa croyance. Cette action découle de sa croyance. Quand il a su que c'est ça la vérité, avec certitude, une certitude qui n'est point ébranlée par aucun doute, une certitude ferme, quand il y a eu cette certitude sur la vérité, ça a donné lieu à des actes du cœur. Et ça a donné lieu également à des paroles avec la langue, comme le fait de dire « La ilaha illallah », comme le fait de dire « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ». Et ça a donné lieu également, les actes du cœur conduisent forcément vers les actes des membres et de l'apparence, comme la salat, al-zakat, al-siyam, al-hajj, et ainsi de suite. Donc, ça c'est la définition de la foi. On rajoute que la foi diminue et augmente. Elle augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle diminue avec la désobéissance à Allah. On peut dire également, elle diminue avec l'obéissance au shaitan. Et ça, c'est très important aussi de le rappeler, que toute obéissance au shaitan est une désobéissance à Allah. Et que toute obéissance à Allah est une désobéissance au shaitan. Shaitan déteste tout ce que Allah aime, et aime tout ce que Allah déteste. C'est pour ça que nous avons les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui suivent sa religion, et nous avons les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui suivent shaitan, qui sont les alliés de shaitan. Et Allah mentionne les deux parties dans le Coran. Il mentionne Hizbullah et Hizbush Shaitan. Donc ça, en résumé, c'est la définition de la foi chez Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Aussi simple qu'elle peut paraître. Malgré cela, la définition de la foi, c'est un point, c'est un fondement bien évidemment, parmi les fondements de la foi. Donc, par conséquence, vous devez déduire, si vous avez bien compris tout ce qu'on a vu précédemment, de ce que l'imam Ahmad a instauré comme règle dans cette risala, c'est que celui qui ne se conforme pas à la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a dans la foi, il ne fait pas partie de Al-Sunnah al-Jama'a. Il peut faire partie de l'Mubtadi'a, et après le Bid'a, c'est Mufassiqa ou Mukaffira. Donc ça doit être des automatismes que tu as dans ton raisonnement. Donc forcément, celui qui ne se conforme pas à Al-Sunnah wal-Jama'a dans des fondements de la croyance, il ne fait pas partie de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et il n'y a pas une station entre les deux. Ou bien il est parmi Al-Sunnah wal-Jama'a, ou il est parmi Al-Ahwa wal-Furqa. Et Al-Bid'a, comme vous savez, elle est de deux catégories. Bid'atun mufassiqatun wa bid'atun mukaffira. Al-Mufassiqa, c'est celle qui ne fait pas sortir de la foi et de l'islam. El Mukaffira, c'est le bid'a qui fait sortir de l'islam carrément, comme le fait de vouer une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'invoquer des morts, comme le fait de demander l'intercession à des morts, comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des adorations qui sont vouées pour autre qu'Allah. Et vous savez, quand est-ce que ça va être une bid'a? Dans le cas où la personne, elle considère ça comme un acte avec lequel elle se rapproche d'Allah. Parce que le bid'a, c'est forcément une adoration avec laquelle on se rapproche d'Allah, qui n'est pas légiférée, qui n'est pas enseignée par le Nabi Aïssa. Et sunna, dans une de ses définitions les plus simples, ils disent « ibqa'u ma kana ala ma kana ». C'est garder tout comme il était à l'époque du prophète Aïssa. C'est ça la sunna. C'est de ne rien changer de la religion. Et les changements de la religion, ce sont des innovations. Et les innovations peuvent être mufassiqa ou mukaffira. Voilà, en résumé, la définition de Al-Sunnah al-Jama'a de la foi. Maintenant, il faut savoir que cette définition, qui est composée de 5 éléments, qawlun, wa'atiqadun, وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُسُ. Dans chaque point de ces 5, il y a eu des sectes égarées. Et donc, on peut résumer les égarements à ce niveau en 5 types d'égarements, dans chacun de ces piliers de la définition de la foi, les 5 qui ont été mentionnés. Et je vais nommer les sectes à chaque fois qui ont eu cette déviance. Donc on commence par la première. La première, ceux qui ont dit la foi, الإيمان هو التصديق فقط. يعني ils veulent تصديق القلب. Ils disent la foi, c'est tout simplement التصديق. Et التصديق, il va englober la connaissance et l'acceptation. Donc ils disent la foi, c'est uniquement dans le cœur. On peut résumer par ça. La foi, c'est uniquement dans le cœur. Et ce qu'il y a dans le cœur, il y a deux choses qui sont indissociables, comme on va le voir de la parole de Cheikh l'Islam Tiemi. Dans le cœur, ce qu'il y a, c'est deux choses qui sont indispensables. Et l'une d'entre elles ne suffit pas. Il faut avoir les deux, l'ensemble des deux, pour avoir la foi. Ce sont les paroles et les actes. Les paroles et les actes du cœur. Donc les paroles, c'est, on a dit les paroles, c'est la science. C'est la connaissance. C'est la croyance. C'est-à-dire connaître la vérité et la reconnaître comme telle. Tu sais que l'islam, c'est la vérité et tu l'acceptes dans ton cœur. Lakin, pour l'instant, ça ce n'est pas traduit par une pratique. Ils disent, c'est ça la foi. Et l'origine de leur égarement, c'est que, effectivement, la base de la foi, elle est dans le cœur. La base de la foi, elle est dans le cœur. C'est pour ça qu'ils ont limité la foi à ce qu'il y a dans le cœur. Et ils ont fait sortir les actes de l'apparence de la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle le morji'a. Al-morji'a, tout court. L'al-morji'a, ils sont de trois catégories. Lakin, ceux qu'on appelle morji'a, tout court, c'est ceux-là, qui disent la foi, c'est dans le cœur, la foi, c'est tasdir, avec le cœur seulement. Et fait partie de ces sectes, les sectes connues, Al-Asha'ira et Al-Maturidiyya. Ce sont des morji'a. Il faut savoir, ya ikhwa, il y a une règle très importante. À chaque fois qu'il y a un égarement dans une croyance, forcément, ça va donner lieu à des égarements dans l'adoration, dans la compréhension, dans la méthodologie, dans tout. Car la croyance, c'est la base et le fondement. Donc ne soyez pas leurrés par ceux qui disent « Un tel, c'est un salafi dans sa croyance et c'est un ikhwani dans sa méthodologie. » Ça, ça ne peut pas être vrai. Car salafi dans sa croyance, forcément, il est salafi dans sa méthodologie également. Lakin, cet égarement dans la méthodologie, forcément, il découle d'un égarement dans la croyance. Lakin, Huma, ceux qui disent ça, pourquoi ils tombent dans cette erreur? Car ils ont limité la croyance à la position face au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont trouvé que ces gens, ils ont une croyance conforme à Al-Sunnah wal-Jama'a dans les noms et les attributs. Mais la croyance, ce n'est pas seulement ça. La croyance est beaucoup plus large. La croyance englobe la foi aux six piliers de la foi. Et en tout ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première secte qui ont limité la foi en un seul élément. La deuxième secte, c'est ceux qui ont dit la foi, ils ont limité la foi en deux éléments. La première qu'on a citée, la parole et l'acte du cœur. Et ils ont fait sortir de cette foi tout ce qui est fait avec l'apparence, les paroles de la langue et les actes des membres. La deuxième, ils ont limité la foi en un seul élément. Ils ont dit la foi, c'est le fait de connaître la vérité. Tout simplement. Donc pour eux, Iblis, c'est un croyant. Les juifs, c'est des croyants. Les chrétiens qui ont rencontré le prophète, les chrétiens de Najran, qui ont rencontré le prophète et qui ont reconnu devant lui qu'il était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ont refusé de le suivre. Pour eux, c'est des croyants, selon sa définition. Donc si on limite la foi en la connaissance, c'est-à-dire le fait de connaître la vérité. Et ça, c'est Al-Jahmiya. Al-Jahmiya qui sont Al-Ghulat parmi le Murji'a. C'est des Murji'a également, mais ils sont arrivés au summum de l'exagération dans cette dérive. Et il y a une troisième secte de Al-Murji'a qui est encore plus proche de la vérité. Si on peut les classer, on va trouver qu'on appelle Fuqaha Al-Murji'a. Fuqaha Al-Murji'a. Donc, si les plus proches de la vérité, c'est Fuqaha Al-Murji'a. Après, plus éloigné, l'Asha'ira Al-Maturidiyya. Après, encore beaucoup plus éloigné, Ghulat Al-Murji'a, qui sont Al-Jahmiya. Amma Fuqaha Al-Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont la même position que le Murji'a. Ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Lakin, ils disent en plus, ils disent que tu ne peux atteindre la foi complète qu'avec les actes. Amma, si quelqu'un se pose la question, et quelle est la différence entre eux, alors à ce moment-là, il asha'ira al-maturidiyya. Non, fuqa al-murji'a, ils disent les actes ne font pas partie de la foi. Lakin, tu ne peux atteindre la foi complète qu'avec les actes. Amma les autres, ils disent, non, la foi, elle est complète sans les actes. C'est pour ça le plus pervers et le plus déviant parmi les gens, parmi ceux qui croient, il a la même foi que le plus pieux des croyants. Tous les croyants, ils disent, ils ont la même foi. Le même niveau de foi. Donc ça, c'est trois sectes qu'on a vues. Après, combien de sectes on a vues? On a vu ceux qui disent tasdiq, ceux qui disent c'est la connaissance seulement avec le cœur. Naam. La quatrième, c'est encore pire. C'est ceux qui disent la foi, c'est uniquement la parole avec la langue. Indépendamment de ce qu'il y a dans le cœur. Nous, on a dit la foi, c'est connaissance, croyance, mise en pratique. Parole, acte et croyance. Parole, acte et croyance. Ceux-là, ils disent la foi, c'est seulement la parole de la langue. Et pour ces gens-là, les hypocrites qui sont dans le fond de l'enfer sont des croyants. Car l'hypocrite, il ne croit pas avec son cœur. Lakin, il le dit avec sa langue. Par intérêt, ou là, pour une raison, n'importe laquelle. En tout cas, dans son cœur, c'est un mécréant. Il ne croit pas. Lakin, il est dans un pays d'islam. Il veut préserver certains intérêts. Il veut épouser une muslima qu'il aime. Il sait qu'ils ne lui donneront pas cette femme tant qu'il ne montre pas son islam. Donc, dans son cœur, c'est un mécréant. Il ne croit pas du tout. Lakin, il le dit avec sa langue seulement. Pour had la secte qui s'appelle Al-Karramiya, qui sont les suiveurs d'un égaré qui s'appelle Mohammed ibn Karram. On les appelle Karramiya. Après, on va passer à une autre catégorie d'égarement. Une secte qui va reconnaître tout ce qu'on a dit. Ils vont dire la foi, c'est des paroles, et des actes, et des croyances. Ils vont dire comme nous, les trois. Lakin, la lacune, elle est où? C'est dans le fait de dire qu'elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Et ça, c'est le Mu'tazila et le Khawarij. Le Mu'tazila et le Khawarij, ils disent la foi, c'est des actes et des croyances et des paroles. Comme Al-Sunna ou Al-Jama'a. Lakin, pour eux, ça n'augmente pas et ça ne diminue pas. C'est pour ça, si tu commets un seul grand péché, tu sors de la foi. Car si tu perds une partie de la foi, forcément pour eux, tu perds la totalité de la foi. Al-Iman idha dhahaba ba'duhu, dhahaba kulluhu, comme ça ils disent. Et on est d'accord que tu perds une partie de ta foi en faisant un grand péché. Lakin, Est-ce que tu perds toute ta foi pour autant? La réponse, bien évidemment, non. Sinon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la sentence de du voleur s'il était mécréant? Pourquoi il a légiféré la sentence du fornicateur s'il était grand mécréant? Pourquoi il a légiféré la sentence du diffamateur s'il était grand mécréant? Et tout ça, mes frères, nous ramène à un point très important qu'il faut toujours garder à l'esprit. C'est que Al-Sunnah wal-Jama'a, ils sont dans un juste milieu, entre deux extrêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est les seuls qui ont eu la bonne croyance en regroupant tous les textes et en les comprenant comme ils étaient compris par Sahab. Les Khawarij, ils vont vous citer des arguments authentiques, des versets de le Coran. Lakin, ils ont une partie de la vérité. Naam, on est d'accord avec eux, dans le sens où c'est très grave de commettre les grands péchés. Et celui qui commet un grand péché, un seul, il s'expose au châtiment d'Allah. Il est menacé par le châtiment d'Allah. Lakin, il ne sort pas de la foi. Il ne sort de la foi qu'avec la grande mécréance ou avec l'associationnisme majeur. Amma, les grands péchés, malgré leur gravité, si jamais la personne ne se repent pas pendant son vivant, et qu'elle soit menacée par le châtiment dans le feu de l'enfer, mais pas pour l'éternité. Car son tawhid le sauvera quand Allah le décidera. Il sera sauvé par son tawhid. Forcément, le muwahhid qui a le tawhid dans le cœur, il sortira un jour ou un autre quand Allah le décidera du feu de l'enfer, même s'il est châtié. Lakin, ces gens-là, ils disent non. Il sera éternellement en enfer. Après, le Mu'tazila et le Khawarij ont divergé par rapport au jugement de celui qui commet le grand péché dans le dunya. Amma, dans l'akhira, ils sont d'accord. Il est éternellement en enfer. Dans le dunya, le Khawarij, ils sont restés en accord avec leur raisonnement. Ils ont dit, c'est un mécréant dans le dunya, c'est un mécréant dans l'au-delà. Al-Mu'tazil en dit, non, on ne peut pas dire qu'il est mécréant, parce qu'ils ont vu qu'il y a des textes, comme ceux que je viens de vous citer rapidement, les sentences qui sont appliquées à ces personnes, et les sentences, si ça n'arrive pas à la sentence et à la peine de l'apostasie, c'est que ce péché n'arrive pas à la mécréance. Donc ils ont dit, dans le dunya, il est dans une station entre les deux. On ne dit pas de lui qu'il est croyant ni mécréant. Ils ont inventé une station. On dit on ne peut pas dire qu'il est mécréant, on ne peut pas dire non plus qu'il est croyant. Lakin dans l'au-delà, il est éternellement en enfer. Et Al-Sunnah wal-Jama'a, leur position, c'est ce que je vous ai cité en premier. La foi, c'est une croyance avec le cœur. Tu dois connaître la vérité. Tu ne peux pas être croyant sans science. Tu ne peux pas croire en une chose que tu ignores. C'est pour ça, la connaissance du cœur, elle s'oppose à l'ignorance. La connaissance du cœur s'oppose à l'ignorance. Donc c'est une croyance avec le cœur. Et c'est des actes avec le cœur également. Donc cette connaissance, si elle arrive dans un cœur sain, dans lequel il n'y a rien qui refuse la vérité, un cœur sain qui accepte la vérité, qui se soumet à la vérité, forcément elle va donner lieu à des actions qu'Allah aime et agrée. Lakin, si la personne connaît la vérité, mais elle a quelque chose qui s'oppose au suivi de la vérité dans le cœur. Par exemple, l'orgueil, l'enviosité, comme c'était le cas de Iblis. Iblis, il connaît la vérité. Il a vu le paradis. Il a vu les anges. Iblis, il connaît la vérité. Lakin, est-ce qu'il sera sauvé pour autant? Ça vous indique clairement que connaître la vérité ne suffit pas. Tayyib, l'accepter. Je connais la vérité et je reconnais que c'est une vérité. C'est pas, je vais dire non, c'est pas. C'est pour ça, il y a un salaf et ça s'est rapporté authentiquement. Un salaf, pendant un voyage, il s'est arrêté dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme un hôtel. C'est un savant du hadith. il s'est arrêté dans Anihad, l'hôtel, pour passer la nuit, avant de continuer son voyage. Et pendant qu'il était dans sa chambre, un shaitan a pénétré dans sa pièce, en apparence humaine. On ne peut pas voir le djinn tel que Allah l'a créé dans cette dunya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. C'est explicite. Impossible de voir un djinn comme Allah l'a créé. Lakin, il peut prendre une apparence. Donc, il lui a dit, t'es qui ? Le savant du hadith. Il lui a dit, je suis un shaitan. Il lui a dit, tu viens d'où ? Il lui a dit, je viens de l'Irak. Il lui a dit, t'as laissé qui là-bas ? Yanné, pour faire ton travail. Il lui a dit, j'ai laissé un homme qui s'appelle Bishr al-Marisi. Ou Bishr al-Marisi. Un grand innovateur. Et un parmi les hommes les plus intelligents qu'Allah a créé. Un des plus grands innovateurs qui a propagé la mauvaise croyance que le Coran est une création d'Allah. Et Shafi'i a eu un débat contre cet homme. Il a montré son égarement, l'imam Shafi'i. Et cet homme est arrivé à un degré de l'ignorance, un degré de l'égarement incroyable. Nasallallahu salamu alayhi wa sallam. Quand Allah t'abandonne, wallahi, tu peux tomber. Yani, dans des égarements inimaginables et incroyables. Tu ramènes une vieille femme d'une campagne, des montagnes. Elle ne peut jamais s'imaginer un égarement comme celui-là. Que dire de tomber dans un égarement? Et ça, c'est quelqu'un de très intelligent qui a beaucoup de science. Lakin, le cœur rempli d'innovation et de passion. Cet homme est arrivé vers la fin de sa vie à dire, quand il se prosternait, il ne disait pas Subhana Rabbil A'la. Qu'est-ce qu'il disait? Subhana Rabbil Asfal. Nas'alullah salam al-afi. Car il ne reconnaît pas que Allah, il est très haut. Donc, Had, il lui a dit, t'as laissé qui? Il lui a dit, j'ai laissé Bishr al-Mari ici. Il a dit, il les appelle à dire quoi? Il a dit, il les appelle à dire que le Coran est une création d'Allah. Il lui a dit, toi, t'es un shaitan. Qu'est-ce que tu crois à ce sujet? Il lui a dit, moi je suis un shaitan maudit, mais je crois que le Coran est la parole d'Allah. Ça c'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique jusqu'à ce grand savant de l'hadith. Ça veut dire que c'est une histoire réelle. Et cette histoire a été mentionnée dans plusieurs assises, et c'est la première fois que je l'ai entendue, dans des assises de Cheikh Rabi'a, Hafidhahullah. Et l'imam Al-Ajurri la mentionne dans son livre Sharia, que Cheikh Rabi'a a expliqué entièrement dans 4 grands volumes. Kitab Sharia. Il a appelé son Sharh Al-Dhari'a fi Sharh Kitab Sharia. Kitab Sharia, c'est un des livres les plus importants de Salaf, malgré qu'il soit concis. Il est édité en 3 volumes, il est édité en 6 volumes, mais il est édité aussi en un seul volume complet. C'est un livre dans lequel l'imam Al-Ajurri parle de la plupart des questions de la croyance et de la méthodologie, en rapportant les paroles de Salaf. Vous savez, vous avez ce livre, vous avez également le livre de l'imam Al-Lalaka'i, et vous avez les livres de l'imam Ibn Battal Ukbari. Ça, c'est parmi les livres les plus profitables pour connaître vraiment le manège de Salaf, et le suivre, et ne pas être leurré par les influenceurs et les youtubeurs qui essaie d'éloigner les gens de suivre la vérité sous prétexte que ça c'est un manhaj qui a été inventé par Rabi al-Madkhali ou là par Mohamed Ben Hadi, Mohamed Aman al-Jami, afwan. Ça c'est le manhaj de Salaf. Et en lisant ces livres, tu vas comprendre ça clairement. C'est pour ça, il y a quelqu'un qui doute de la position de Al-Sunnah al-Jama'a vis-à-vis des gouverneurs, on ne lui dit pas, viens, regarde ce que Cheikh Rabi a dit. Ce que Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Taqi al-Din Hilali, au Maroc, on lui dit, va lire Kitab al-Imara dans l'authentique de l'imam muslim. Et fais ce que tu veux de ces ahadiths, qui sont clairs et explicites, du devoir d'obéir au gouverneur du moment qu'il est musulman. De lui obéir dans tout ce qui est obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Lakin, dans une désobéissance à Allah, si tu crains pour ta vie, tu peux obéir sous la contrainte. Amma, s'il t'ordonne autre chose qui n'est pas un péché, tu dois obéir, car cette obéissance est une obéissance à Allah et à son message. Et les hadiths à ce sujet sont tellement nombreux. Lakin, c'est un point que l'awam, d'une manière générale, ont du mal à accepter. C'est pour ça, c'est pas une sagesse de commencer à parler avec un ami de ce point. Parce que pour lui, le gouverneur, quel que soit ce gouverneur, c'est forcément un kafir. Car il partage pas avec lui sa fortune. C'est pas parce qu'il met pas en application sharia. Ça, il en a rien à faire. Là, parce qu'il partage pas mal le gâteau. Il garde tout pour lui. Amal, sunna, ils invoquent Allah pour les réformer. Et pour qu'ils mettent en pratique la législation d'Allah. Et qu'ils suivent la sunna de son prophète, et c'est comme ça qu'Allah va les élever, et va leur donner la force et le pouvoir et l'autorité sur terre. C'est comme ça. Hachi, les ennemis de l'islam, ils ont compris Hachi mieux que nous. Ça, ils combattent les muslimines pour qu'ils ne reviennent pas à leur religion. Le jour où ils vont revenir, oh Allah, ils seront tous sous leurs pieds. Sauf celui qui accepte la foi parmi eux. Là, tant qu'on est loin de notre religion, on va rester dans cette situation qui a été décrite mot par notre prophète alayhi sallam. Sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah fera abattre sur vous une humiliation qu'il ne lèvera jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et notre religion, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas le khuruj fi an sabilillah. Ce n'est pas danser ou les mosquées des soufis. Ce n'est pas le khuruj de tablir. Ce n'est pas la politique prétendue des frères musulmans. Ce n'est pas ça notre religion. Notre religion se trouve dans le hadith Jibril. L'islam, l'iman et l'ihsan. C'est ça la religion. C'est pour ça que Nabi Aïssalam, quand Jibril Aïssalam est parti, il a dit aux compagnons, ça c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Il y a la religion à laquelle Nabi Aïssalam, quand il parle de revenir à la religion, il parle de cette religion de laquelle il a parlé dans ce hadith également. Il ne parle pas de la politique ou de lire le New York Times ou d'être renseigné sur Al-Shahada. Si tu le connais... Yani, sans perdre ton temps, ça peut être au mieux quelque chose d'autorisé. Et si tu ne le connais pas, ça, c'est une ignorance. Jahlun la yadur. C'est pas quelque chose qui va te nuire dans ta religion. Lakin, si tu ne connais pas ce qui valide chacun parmi les six piliers de la foi, si tu ne connais pas comment pratiquer correctement les cinq piliers de l'islam, ça pose problème. Et nous ne parlons même pas du troisième degré, le plus élevé de la foi, qui est la bienfaisance, qui est l'excellence, et qui dans lequel on arrive à des niveaux élevés dans les adorations les plus importantes en islam, et les plus méritoires, qui sont les adorations du cœur. Ça te prend tout un temps, toute ta vie. Yada, kana min husni islam il mar'i. Un signe de la bonté de la pratique de l'individu, ce qu'il s'écarte de ce qui ne le concerne pas. Regarde aujourd'hui, dès qu'on entend quelque chose, on va sur internet, on cherche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que... On a une mauvaise curiosité. Et on n'a pas la bonne qui est demandée. أسأل الله السلام والعافية أسأل الله التوفيق والإعانة والسداد والموفق يا إخوة ليس هو الأذكى ولا الأعقل ولا من لازم العلماء أكثر الموفق من وفقه الله الموفق c'est celui à qui Allah a accordé son soutien et son aide. C'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus celui qui a côtoyé les savants le plus, celui... non. Al-muwaffaq huwa man waffaqahu Allah. Car la personne, elle peut très bien être auprès des gens du bien et être dans le mal. هادو هما لي سكت اي لا بوزيسيون جوست. مانون جو في فو لير اون بارول دو ابن تيميه رحمه الله. يدي اجمع السلف ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc il dit que les salafs, les pieux prédécesseurs, sont unanimement d'accord que la foi, c'est des paroles et des actes qui augmentent et qui diminuent. Wa ma'na dhalik. Cela signifie, il s'explique. Annahu qawlu al-qalbi wa 'amalu al-qalb. Cela veut dire que la foi, c'est les paroles du cœur. On a vu les paroles du cœur, c'est le fait de croire. Le fait de connaître la vérité et de l'accepter. Et de la reconnaître comme vérité. Ce sont les paroles du cœur et les actes du cœur. Les actes du cœur comme le mahabba, le khawf, le raja, le tawakkul, le husn al-dhanni billah, le thiqatu billah, hakada. Toutes les adorations du cœur rentrent dedans, qui font partie de la foi. Comme l'amour d'Allah et de son messager, la crainte d'Allah, l'espoir, le tawakkul, de placer sa confiance en Allah, husn al-dhann, avoir la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est des adorations du cœur qui sont extrêmement méritoires et qui se travaillent. Wa 'amal al-qalbi, il a dit, puis après les paroles du cœur et les actes du cœur, il a dit, puis les paroles de la langue et les actes des membres. Cela indique bien que la base de la foi, elle est bien dans le cœur. Mais la foi, c'est pas seulement dans la cœur. C'est pas seulement dans le cœur. Sa base, elle est certes dans le cœur. Mais la foi, elle n'est pas limitée à ce qu'il y a dans le cœur. Car dire la ilaha illallah, c'est une parole de foi. Faire la salat, c'est un acte de foi. Jeûner, c'est un acte de foi. Et ainsi de suite. فأما قول القلب فهو التصديق. Donc il continue, il explique chaque point. Il dit la parole du cœur, c'est le fait de croire fermement en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier. Il n'a pas cité le qadar car il rentre dans la foi en Allah. Avoir la foi en ses décrets, en ses actes. Et le décret, ça fait partie de sa foi, de la foi en Allah. Et le décret fait partie des actes d'Allah qui fait partie de la foi en Allah. C'est pour ça dans plusieurs versets, dans le Coran, jamais le qadar n'est cité avec les six piliers. Il est cité tout seul. Mais dans le hadith, il est cité avec. Et il fait bien partie des six piliers de la foi. C'est pour ça d'ailleurs, ils sont six. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et rentre dans la foi également tout avec quoi est venu le messager d'Allah, alayhi wa sallam. Tout ça rentre dans la foi. Allez, toute la religion de l'islam. C'est pour ça, vous entendez, les ulama, ils disent la foi, l'iman, l'islam, l'ihsan, ce sont des synonymes. Ils indiquent la même chose, sauf quand ils sont cités ensemble dans un même contexte. Chaque terme va prendre une partie du sens. L'islam, c'est quoi? C'est des croyances, c'est des paroles et des actes. Yani, c'est des choses avec l'apparence et des choses avec l'intérieur. Lakin, quand ils sont cités ensemble, l'islam sera réservé seulement à ce qui est fait avec l'apparence, et l'iman seulement à ce qui est fait avec l'intérieur, avec le cœur, et l'ihsan sera pour l'excellence dans les deux. Et ensuite, il a dit « وَهَذَا التَّصْدِيقُ يَتْبَعُهُ عَمَلُ الْقَلْبِ » Cette croyance ferme est suivie par des actes du cœur. Donc, il faut d'abord connaître la vérité et la reconnaître comme telle que c'est une vérité émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, elle sera suivie par les actes du cœur, qui est l'amour d'Allah et de son messager, la glorification et la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte d'Allah et ainsi de suite parmi les adorations du cœur. وَيَتْبَعُ الْاِعْتِقَادَ قَوْلُ الْلِسَانِ. Donc, le fait de croire est suivi par les paroles avec la langue. Les paroles du cœur sont suivies par les paroles de la langue. Autrement dit, les paroles du cœur donnent lieu à des paroles avec la langue. Et les actes du cœur donnent lieu à des actes avec les membres et avec l'apparence. Donc l'ensemble de ces choses-là forme la foi. C'est ça la foi. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'imaginer la foi de quelqu'un qui croit que l'islam c'est la vérité, mais il ne veut pas se soumettre à Allah. Il le dit comme ça, il dit « Oui, je sais, l'islam c'est la vérité, c'est l'unique vérité. Il n'y a pas de vérité que l'islam. Et j'accepte cela. Et je le reconnais pleinement et publiquement. Lakin, je ne me soumets pas à Allah. Celui-là, à l'unanimité des savants, ce n'est pas un muslim. Le muslim, c'est celui qui connaît la vérité et qui l'accepte et qui se soumet à cette vérité. Qui se soumet à cette vérité. Oui. C'est pour ça que les Khawarij, ils se sont égarés quand ils ont dit que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Le Nabi alayhi salam, en parlant de ce compagnon qui buvait l'alcool et qui a été maudit, qui a été insulté par un autre compagnon, tellement il le ramenait pour lui appliquer la sentence de l'alcool, il a dit « La'anahullah ». Nabi Aslam, quand il a entendu ça, lui a dit « La tal'anou, ne l'insulte pas, car il aime Allah, il aime son messager. » Ça veut dire, le croyant qui aime Allah, qui aime son messager, il peut tomber dans des grands péchés. Et il se repent, lakin il faiblissait. Il retombait dans le même péché. Ceci n'invalide pas le premier repentir. Lakin nécessite un deuxième repentir. Et ainsi de suite. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Lakin, sois vigilant et achi. Allah qui est la bonté absolue et la bienfaisance absolue et la miséricorde absolue, il est également dur en châtiment. Il faut les deux pour arriver auprès d'Allah et ne pas s'attirer sa colère. Il faut à la fois ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, lakin toujours se rappeler la peur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et se rappeler son châtiment. C'est pour ça Omar radiallahu anhu, de par son fiqh minutieux et sa compréhension approfondie de la religion, des fois, quand Hudhayfa radiallahu anhu, il citait des hadiths sur le paradis, il lui disait après, rappelle-nous maintenant des hadiths sur l'enfer. Et allez, pour retrouver toujours cet équilibre. Si tu vois que tu tombes dans un désespoir et Shaitan il te fait désespérer de la miséricorde d'Allah, dis mais toi tu fais ça et t'as pas honte et tu recommences et tu viens avec les gens comme si tu étais quelqu'un de bien. Shaitan, s'il voit que tu es faible, il essaie de te rabaisser de cette manière. Alors le remède, c'est de te rappeler la largesse de la miséricorde d'Allah. Lakin, si tu vois que ce que tu te rappelles le plus souvent, c'est sa miséricorde d'ailleurs, qui te fait transgresser ses limites. Alors à ce moment-là, rappelle-toi plutôt la crainte d'Allah et la peur d'Allah. Et lis les hadiths sur le feu de l'enfer et sur la mauvaise fin par laquelle sont éprouvés certains serviteurs. Qui te garantit qu'Allah ne prenne pas ton âme pendant l'accomplissement de ce péché? Ça, c'est la pire des choses qu'on puisse imaginer. Il meurt en plein péché. Il sera ressuscité d'ailleurs ainsi, dans le même état. Wallahi ya ikhwa, si on se rappelle ce point avant de faire un péché, je ne pense pas qu'on fera le péché. C'est pour ça que le croyant, il doit être toujours dans cet équilibre, entre les deux, entre l'espoir et la crainte. Et l'amour, c'est ce qui te conduit, si on peut l'exprimer ainsi, c'est cette force motrice qui te fait bouger de plein force vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son amour. Et tout ça, c'est les fruits, toutes ces adorations, ce sont les fruits de la connaissance d'Allah. C'est les fruits de la connaissance d'Allah. Il découle de la connaissance d'Allah. C'est pour ça, plus on connaît Allah, plus on va le craindre. Et plus on va l'aimer. Et plus on va l'espérer. Nas'alullaha min fadlihi. Donc la foi, ce n'est pas seulement croire que c'est ça la vérité. Et même pas, et comme il dit l'imam Ibn al-Qayyim, il a une belle parole, il dit, celui qui médite au sujet de l'histoire des chrétiens de Najran qui ont rendu visite au prophète alayhi sallam, il verra clairement que la foi, c'est pas seulement la connaissance et la science. Avoir la science, c'est pas seulement ça la foi. Il dit, et même pas avoir la science et l'accepter. Il a dit, mais la foi, c'est d'avoir la science et l'acceptation et la soumission. Traduire cette foi dans le cœur par des actes sur l'apparence et la langue. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. S'il reste 5 minutes, on va peut-être lire la partie sur l'ANA, ça fait partie de ce point. Vous avez encore 5 minutes ? طيب il a dit l'imam Ahmad ensuite il a dit wa man taraka as-salata faqad kafar. Donc là il va parler du jugement de celui qui délaisse la salat. Il a dit wa man taraka as-salata faqad kafar. Celui qui délaisse la salat, il a mécru. Wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salat. Il n'y a pas des actes en islam dont le délaissement est une mécréance excepté la salat. Celui qui la délaisse, il a dit, c'est un kafir. Allah a autorisé de lui appliquer la sentence de celui qui délaisse la salat, yani, il mérite cette sentence. Cheikh Rabi, il a dit, les savants, en résumé, je vous résume ce qu'il a dit, les savants ont divergé par rapport à cette question en deux avis. Il y a des savants, ils sont unanimement d'accord que celui qui ne reconnaît pas la prescription et l'obligation de la salat, c'est pas un musulman. Sauf si c'est quelqu'un qui vit dans une île, une jungle isolée, ou là, quelqu'un qui est né dans les pays de l'islam, ou là, qui connaît l'islam, c'est parmi les points que personne n'est excusé d'ignorer que la salat est une obligation religieuse. Et c'est un pilier de l'islam. Et c'est le pilier le plus important dans la pratique d'une manière absolue. Tu ne te rapprocheras pas d'Allah d'une pratique meilleure que ta salat. C'est pour ça, donne beaucoup d'importance à ta salat. Et sache que la valeur et l'estime de l'islam, de toute cette religion dans ton cœur, il est proportionnel à l'importance que tu accordes à la salat en groupe pour les hommes. Et à la salat, d'une manière générale, pour les femmes. À la faire en début de son temps. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, faqih al-umma, le grand compagnon, il a dit, فَإِنَّ مَنْزِلَةَ الْإِسْلَامِ فِي قَلْبِكَ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَةِ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ أو كما قال. يعني le statut de l'islam dans ton cœur, c'est égal au statut ou égal à l'importance que tu accordes à la salat. C'est pour ça que les savants ont divergé. Est-ce que celui qui délaisse la salat, on ne parle pas de celui qui renie la prescription de la salat. Ça, c'est un mécréant à l'unanimité. Lakin, celui qui délaisse la salat par fainéantisme, par paresse, il dit, naam, c'est une obligation, qu'Allah me guide. Lakin, il ne la fait pas. Est-ce que celui-là, c'est un musulman ou c'est un kafir? Cheikh Rabi, il dit que les arguments de ceux qui disent que c'est un mécréant qui est sorti de l'islam, c'est-à-dire la grande mécréance, sont très très nombreux. Et beaucoup, c'est l'avis de beaucoup de savants parmi les salafs. Comme le Nabi a dit, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Yani le lien qu'il y a entre le prophète et sa communauté, c'est la salat. Celui qui la délaisse, il a mécru. C'est pour ça que le musulman ne doit jamais délaisser la salat, quel que soit son état. Car le jour où il abandonne la salat, il a coupé le lien entre lui et son créateur. C'est pour ça d'ailleurs elle s'appelle Salat. Li'annaha silatun, un lien entre toi et Allah. Si tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, fais la Salat. Yakin, celui qui coupe ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a maigre. Allah Azza wa Jalla dit فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Il a dit dans Surah Tawba, si ils se repentent, ils accomplissent la salat, ils acquittent la zakat, ce sont alors, à ce moment-là seulement, vos frères dans la religion. Cela veut dire que avant ces choses-là, ils n'étaient pas nos frères dans la religion. C'est ça la compréhension qui indique ce jugement de ce verset. Ça s'appelle une déduction par mafhoum al-mukhalaf. Yani, s'ils font ces choses-là, ce sont vos frères dans la religion. L'opposé, s'ils ne les font pas, ce ne sont pas vos frères dans la religion. Ça s'appelle mafhoum al-mukhalafa dans usul al-fiqh. Est-ce que c'est un argument très fort ? Wali al-muhim, c'est ça ad-dalil qui est utilisé ici. Et yani, les dalils au sujet de l'importance de la salat et de son obligation et que c'est la meilleure adoration pratique dans l'islam sont très très nombreux. Il y a d'autres savants. Yani, Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il rapporte de la majorité des compagnons, de la majorité des hommes de science. Enfin, il rapporte de la majorité des hommes de science et parmi les compagnons et parmi tous ceux qui les ont suivis. Et que leur avis est que celui qui délaisse la salat par fainéantisme n'est pas un musulman. Et il y a des savants qui voient que celui qui délaisse la salat, certes, il a commis un des plus graves péchés qui existent en islam. Et ça peut être la cause qu'Allah l'abandonne totalement à tomber dans la mécréance. Là, qu'ils disent, ce n'est pas quelque chose qui le fait sortir de l'islam. Lakin, ce qu'on doit retenir, c'est la gravité pour tous les savants de l'islam et la gravité de l'abandon de la salat. Et à ce sujet-là, il n'y a pas de divergence. C'est quelque chose de très grave. C'est pire que de faire zina, de faire riba, de délaisser la salat. Yani, c'est pour ça l'imam Ahmad, il a dit, son délaissement, ça fait sortir de l'islam. Et après, il a parlé en dernier du statut de celui qui délaisse la salat. S'il délaisse la salat, il y a des savants qui ont dit, on lui applique la sentence et il sera tué comme un mécréant. Par le gouverneur, bien évidemment. Les sentences ne sont appliquées que par les gouverneurs et non pas par les individus. Le Khawarij, il les applique eux-mêmes. Lakin, al-Sunna, chez eux, les sentences sont appliquées seulement par le gouverneur. Ça fait partie de l'autorité du gouverneur. L'assassinat, ça devient, si ce n'était pas ainsi dans l'islam, ça deviendrait l'anarchie. À chaque fois, je veux dire l'anarchie, j'étais à deux doigts de dire la monarchie. Là, ça deviendrait l'anarchie. À ce moment-là, chacun peut tuer celui qu'il souhaite et après il dit non, parce qu'il était dans le délaissement de Salat, parce qu'il était dans ça. Non, Hachi Alash, ces choses-là sont appliquées par les autorités compétentes. D'autres ont dit non, on le tue, mais par contre, il meurt comme un muslim. Et ça, c'est une purification pour lui. L'application de la sentence est une purification pour lui, comme c'est le cas pour toutes les sentences. Ce sont des purifications pour celui qui les commet, à part la sentence de l'apostasie, car il n'y a pas de purification de l'apostasie. Taïb. Et d'autres ont dit, non, on ne le tue pas, mais on le garde emprisonné jusqu'à ce qu'il fasse la salat ou qu'il meure emprisonné. Ça, ils disent, c'est l'avis de Abu Hanifa. Voyez que, pour tous les savants, ça c'est quelque chose de très grave, d'abandonner la salat. C'est pour ça, n'abandonne jamais la salat. Ne coupe jamais le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, mes frères, nous allons nous arrêter ici. Dans le point suivant, il va parler des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.